Il y a quelques semaines, donc, je déclarais que nous étions tous pentecôtistes, une formule qui semble avoir fait son effet. J'aimerais commencer cette méditation par une question. Avons-nous fait l'expérience de la Pentecôte? Avons-nous reçu la visite de l'Esprit? L'Esprit nous habite-t-il? Nous remplit-il tous? Alors pour nous aider à répondre à cette question importante, le Nouveau Testament nous propose toute une gamme de tests de dépistage de la présence en nous ou non de l'Esprit-Saint. Au premier rang d'entre eux figure celui que nous trouvons dans le livre des Actes, au chapitre 2, dont nous lirons le verset 42. La dernière fois, nous avons lu les 41 premiers versets. Ce matin, nous ne lirons que le verset 42. Acte 2, verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Le signe de la présence en nous de l'Esprit-Saint, un appétit nouveau et formidable. Alors de quoi ? Notre texte distingue très nettement quatre objets : la parole, la communion, l'agape et les prières. La parole d'abord. Des croyants nouvellement convertis et habités depuis peu par l'Esprit de Dieu, nous l'avons vu la dernière fois, Luc nous dit aussitôt, et là je relis ces paroles telles que traduites par la Bible en français courant, qu'il s'appliquait fidèlement à écouter l'enseignement que donnaient les apôtres. Un mot pour commencer sur le sens premier du verbe utilisé ici par Luc pour caractériser l'attitude générale de ces croyants de la première heure. Le verbe s'attacher fortement, d'où à la fois persévérer dans, employer assidûment son temps à, d'où à la fois rester donc fermement ou fidèlement attaché à. Ainsi, le trait dominant permettant de repérer parmi la foule de ceux qui se disent chrétiens, ceux qui sont réellement remplis par l'Esprit de Dieu, est la persévérance. Et cela mérite d'être souligné à une époque où l'inconstance prévaut de plus en plus souvent sur la détermination, la ténacité, la fidélité. Nous multiplions bonnes intentions et résolutions louables dans les moments d'euphorie en particulier, mais de détresse aussi lorsque nous sommes prêts à tout, ou presque, pour mettre le Seigneur de notre côté. Mais combien de ces beaux projets résistent-ils au temps ? L'une des marques de la présence en nous de l'Esprit est donc bien la persévérance. Alors venons-en maintenant au premier domaine dans lequel cette persévérance est appelée à se manifester. Nous l'avons dit, l'écoute de la parole. Relisons ici le début de notre texte. Ils, autrement dit les 3000 qui viennent d'être baptisés, 3000 en un jour, pas un seul, mais 3000, et qui constituent désormais la première église de Jérusalem, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Le bonheur donc de ces hommes et de ces femmes tout juste convertis, un bonheur dont Michel a fait état tout à l'heure, et je m'en réjouis, et nous en sommes réjouis certainement tous ensemble, leur bonheur, écouter l'enseignement divin, tel que transmis par Pierre, Jean, Jacques et les autres. Alors Jésus l'avait bien dit à ses disciples, je reprends un texte qui a été indiqué il y a quelques instants, Matthieu 28, les versets 19 et 20, « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai enseigné. » C'est pourquoi, sitôt enregistrées les premières adhésions massives à la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, les disciples, devenus apôtres entre-temps, se sont mis à enseigner les croyants. Entendez par là, à leur communiquer oralement tout ce qu'ils avaient entendu de la bouche même du Seigneur, concernant notamment sa personne, bien sûr, mais son œuvre aussi. En un mot, ce que nous appelons volontiers l'Évangile, au sens le plus large du terme, l'Évangile de Jésus-Christ. Et chose remarquable, cet Évangile ainsi annoncé a immédiatement captivé ses auditeurs. Au point que, comme le rapporte Luc, ils consacrent désormais à son écoute une partie non négligeable de leur journée. C'est qu'ils se régalent et que du coup, ils sont insatiables. Eux. Alors je pose maintenant la question, j'en posais plusieurs ce matin, quitte à me déranger et en déranger l'un ou l'autre. Mais il est bon parfois que nous nous laissions bousculer par la parole. Alors je pose cette question, ce gros appétit de la parole, signe indubitable de la présence en soi de l'Esprit de Dieu, ce gros appétit, le connaissons-nous? Je ne demande pas ici s'il nous arrive de temps à autre d'avoir une petite faim, un petit creux, mais si nous éprouvons tous une faim dévorante d'Évangile. Comme il serait rassurant de savoir que dès le matin, nous ressentons tous comme un manque d'enseignement divin. Nous veillerions alors, jour après jour, à consommer enfin, sans modération, ce véritable pain de vie qu'est l'Écriture sainte en tant que trace certifiée conforme de la prédication apostolique. Individuellement déjà, en prenant bien soin de nous nourrir de cette parole, en la lisant, en l'étudiant, en la méditant, non pas une fois de temps en temps, mais régulièrement, quotidiennement. Mais collectivement aussi, à la manière de ces premiers croyants de Jérusalem, en accourant, chaque fois qu'une assemblée est convoquée, qui inclut une annonce commentée d'un aspect quelconque de ce que l'apôtre Paul appellera plus tard tout le conseil ou le plan de Dieu, c'est-à-dire sa révélation tout entière. Il en est ici qui, si cela ne tenait qu'à eux, ne manquerait aucune étude biblique, tant leur appétit d'enseignement est grand, et j'en connais et je me réjouis de les connaître. De cela, nous pouvons dire, sans crainte de nous tromper, qu'ils sont habités par l'Esprit. Mais pas seulement, que grandiront, parce que toujours à la recherche, eux, de cette nourriture solide qui seule fait passer celui ou celle qui l'absorbe de l'état d'enfant à celui d'adulte dans la foi. Et qu'ils porteront du fruit, eux. Souvenez-vous ici de ces vers du psalmiste parlant de celui qui aime la loi du Seigneur, qui aime la loi du Seigneur, qui n'en a jamais assez, qui la médite jour et nuit, écrit-il. Je cite, il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau, lui. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Puis il y en a d'autres, hélas, véritables anorexiques spirituels, que quelques gouttes de lait seulement, absorbées à la hâte et très irrégulièrement, comblent largement. Cela, il faut le dire, se condamnent à ne jamais être que des plantes rabougries dans le jardin de Dieu, quand ils ne démontrent pas tout simplement qu'ils n'ont jamais été remplis par l'Esprit. Alors, assez pour le premier signe de la présence en nous de l'Esprit-Saint. Venons-en au deuxième. Notre appétence, toujours, mais cette fois pour la communion. Ah, la communion. Quelle communion, au fait? Il n'est pas exclu que par communion, il faille entendre ici communion spirituelle avec Dieu. L'une des fonctions essentielles de l'Esprit-Saint n'est-elle pas, en effet, non seulement de nous mettre en relation avec lui, mais encore de nous faire soupirer toujours après lui. Il ne serait donc pas étonnant du tout que les premiers croyants de Jérusalem démontrent par leur soif inextinguible du Seigneur aussi qu'ils sont bien habités par l'Esprit de Dieu. Cela dit, il me semble plus probable que par communion, il faille entendre ici communion avec les sœurs et frères en la foi. C'est là que ça se complique. D'où la traduction, d'ailleurs, proposée par la S21, comme par la plupart des versions que nous connaissons, communion fraternelle. Alors, le fraternel n'est pas dans le texte. Ainsi donc, le deuxième signe auquel on reconnaît la présence de l'Esprit-Saint en nous est la véritable soif qui nous habite, en permanence, de vivre en communion étroite et profonde avec toutes celles et tous ceux qu'on les appelant à devenir ses filles et ses fils, Dieu nous a donné comme sœurs et frères. Alors je pose maintenant la question, cette soif de vivre toujours plus proche des autres, cette soif, est-ce que nous la connaissons ? Je ne demande pas ici, là encore, s'il nous arrive de temps en temps d'avoir une petite soif, mais si nous éprouvons tous une soif quasi douloureuse de communion. Les 3000 convertis et baptisés de Jérusalem la connaissent, eux, cette soif. Luc rapportera bientôt, acte 2, versets 46 et 47, que chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord dans le temple. Chaque jour. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et ils avaient la faveur de tout le peuple du coup. C'est dire s'ils ont entendu, eux, cette sorte de volonté testamentaire du Seigneur, soigneusement conservée par Jean l'évangéliste, et je cite ici Jean 13, les versets 34 et 35, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes réellement mes disciples. Et c'est moi qui ajoute que mon esprit est en vous, qui vous pousse constamment les uns vers les autres. Oui, ce commandement suprême du Maître, ils l'ont entendu, eux, et bien entendu. Brûlons-nous tous, comme eux, de nous rapprocher toujours les uns des autres. Bondissons-nous tous, comme eux, sur la moindre occasion de rencontre qui nous est offerte, pour retrouver celles et ceux que nous regardons désormais comme des sœurs, comme des frères. Aimons-nous comme eux, passer du temps ensemble, casser la croûte ensemble, adorer Dieu ensemble. Ou à tout prendre, notre propre compagnie est-elle la seule qui nous agrée vraiment ? D'où notre fréquentation minimum des rassemblements que propose l'Église, minimum. Et le cas échéant, notre départ précipité, sitôt entendu l'amen final d'une rencontre comme celle-ci. Il va sans dire que je ne parle pas ici de ceux d'entre nous qui ont des obligations à l'égard de proches, empêchés ou malades, par exemple. Notons encore ceci, avant de poursuivre, ce goût pour la communion, qui caractérise si bien les membres de la première église de Jérusalem, ce goût les conduit non seulement à se vouloir ensemble le plus souvent possible, mais encore à s'entraider mutuellement. Luc écrira un peu plus loin, acte 2, versets 44 et 45 d'abord, que tous étaient ensemble, ils avaient tout en commun, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Et puis, versets 32 et 34 du chapitre 4, « La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, et ils mettaient tout en commun. Du coup, et c'est là l'essentiel, du coup, il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux. Il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux. C'était leur objectif. Alors, entendons-nous bien, mon propos ici n'est pas de nous interroger sur l'opportunité de reproduire aujourd'hui à l'identique le modèle de Jérusalem, mais plutôt de souligner le lien que l'Esprit-Saint, en nous, immanquablement, nous pousse à établir entre communion véritable et compassion active. Communion et compassion vont de pair. Ce qu'il nous faut comprendre ici est simple. Le signe que l'Esprit de Dieu nous habite est aussi que nous ne pouvons pas rester insensibles à la détresse, de quelque nature qu'elle soit, d'une sœur ou d'un frère, et que nous sommes toujours prêts à consentir l'effort qui permettra à cette sœur ou à ce frère de se rétablir. Voilà pour le deuxième signe de la présence en nous de l'Esprit-Saint. J'en viens au troisième, l'agape. L'agape. Littéralement, la fraction du pain. Le casse-croûte. J'y reviens. Alors, c'est-à-dire exactement, les avis ne concordent pas tous sur la signification exacte de cette formule, tandis que certains commentateurs voient là une référence claire à la célébration de ce que nous appelons généralement la Sainte Cène. D'autres jugent que l'allusion est plutôt aux repas communautaires qui régulièrement viennent enrichir la vie de l'Église. Pour ma part, je suggère que nous comprenions cette expression comme la manière choisie par Luc pour désigner ces agapes ou dîners fraternels qui, à son époque, servent déjà souvent de cadre à la célébration de ce qu'on appelle en grec l'Eucharistie ou Sainte Cène. Ainsi, la troisième preuve que les 3000 convertis et baptisés de Jérusalem sont bien habités par l'Esprit-Saint est-elle qu'ils multiplient les dîners d'église avec commémoration solennelle de la mort du Seigneur dans la plupart d'entre eux. Alors pourquoi ? Très simplement, parce que ces repas pris en commun sont autant de manifestations concrètes et visibles de leur unité. Et que seule la présence de l'Esprit de Dieu en eux peut expliquer leur étonnante obstination à vouloir exprimer ainsi, je veux dire de manière tangible, cette unité. Les croyants de Jérusalem l'ont donc, eux, ce goût de l'agape. Et nous. J'ai cru comprendre que le repas fraternel proposé hier soir n'a pas rencontré un succès débordant. Et nous. Je sais, l'usage de l'agape est moins prisé de nos jours. Et alors, est-ce une raison pour l'oublier ? Dans la mesure où plus, peut-être, que toute autre pratique collective, elle, l'agape, sert non seulement à révéler notre unité en Christ, mais encore à resserrer les liens qui nous unissent en lui. Ne devrions-nous pas, au contraire, chercher à la remettre à l'honneur et partant multiplier les casse-croûtes communautaires ? Petit déjeuner. Oh, nous sommes entre 4 et 5, 5 ou 6. Pique-nique, nous avons été plus nombreux. Goûter, on n'en a plus, si, un par mois. Repas libre, une idée à reprendre. Et autres repas fraternels. Et ce n'est pas tout. Vu que dans l'Église primitive, il va de soi qu'une agape sert d'écrin au rappel de la croix dans les formes instituées par le Seigneur lui-même, ne devrions-nous pas, de temps en temps au moins, inclure au cœur de ces précieuses agapes une vraie fraction du pain, doublée d'un partage de la coupe ? Qu'en pensez-vous ? En serait-il quelques-uns ici pour militer avec moi en faveur de célébrations supplémentaires du sacrifice de Jésus-Christ, mais dans le cadre, cette fois, de repas communautaires dûment annoncés ? Mais revenons à notre propos initial. Nous assurer tous que nous sommes bien remplis de l'Esprit-Saint. Comment en être certain ? C'est simple. Avons-nous le goût de l'agape ? Avons-nous le goût de l'agape ? De la fête communautaire ? du festin ecclésial. Aimons-nous nous retrouver pour rompre le pain et nous rappeler la mort du Seigneur ensemble ? Oui ? Fort bien, alors nous pouvons être rassurés. L'Esprit de Dieu est très certainement en nous. Non ? Dans ce cas, il vaudrait mieux pour nous que nous ne tardions plus, mais prions Dieu maintenant de nous accorder enfin cette plénitude de l'Esprit, sans laquelle il n'est tout simplement pas de vie chrétienne authentique. Voilà pour le troisième signe de la présence en nous de l'Esprit Saint. J'en viens au quatrième et dernier, les prières. Alors, non pas la prière, comme on pouvait s'y attendre, mais bien les prières. Alors, on s'est interrogé, bien sûr, sur la signification de ce pluriel. Pourquoi ce pluriel ? Et parmi les interprétations proposées, deux me paraissent intéressantes. La première voit dans ce pluriel une référence aux nombreux temps de prière qu'observent les croyants de Jérusalem, qui non seulement participent aux prières du Temple, mais aussi multiplient ce que nous appelons parfois aujourd'hui les réunions de prière de foyer. En acte 3, verset 1, Luc nous décrit Pierre et Jean montant au Temple pour la prière de 3 heures. Tandis qu'en acte 12, verset 12, il indique que beaucoup de personnes se sont réunies chez Marie pour prier. La deuxième interprétation, elle, voit plutôt dans ce pluriel une référence aux diverses formes de prière, adoration, reconnaissance, confession, pétition, intercession, que sais-je. Diverses formes de prière que pratiquent les membres de la première assemblée chrétienne de Jérusalem. Alors, faut-il choisir entre les deux interprétations ? Pas sûr. Pour moi, j'estime que ces deux lectures se complètent et méritent donc d'être retenues l'une et l'autre. Du coup, les 3000 convertis et baptisés de l'après-Pentecôte nous apparaissent nettement comme des femmes et des hommes de prière. Plus précisément, comme des femmes et des hommes qui aiment prier ensemble. La preuve ? Les réunions de prières officielles dans le temple ne leur suffisent pas. Il leur faut encore se retrouver régulièrement chez l'un, chez l'autre, pour s'exercer ensemble à toutes les formes de l'oraison. Et ce faisant, ils démontrent de manière éclatante qu'ils sont bien tous habités par l'Esprit Saint. Car tel est bien le quatrième signe de cette présence divine en eux. Ils prient en toute occasion, sans cesse, partout et de toutes les manières. Et nous, avons-nous ce même goût de la prière communautaire ? On pourrait parler de la prière au sens plus large du terme, incluant les prières individuelles. Mais je parle ici, parce que c'est d'elle qu'il est question dans notre texte, de la prière communautaire. Avons-nous le goût de la prière communautaire. Des rendez-vous nous sont fixés dans l'Église, comme celui du jeudi soir, pour ne citer que celui-là. Les honorons-nous joyeusement ? Ou les snobons-nous régulièrement, sans autre raison que celle-ci ? Nous n'en voyons pas l'intérêt. Il peut y avoir de très bonnes raisons, pas pouvoir se joindre aux frères et sœurs du jeudi soir, mais il peut aussi y en avoir de très mauvaises. Et puis, des groupes existent, qui se réunissent dans les foyers pour prier. Avons-nous songé à nous rapprocher de l'un ou de l'autre, voire d'en héberger un nouveau ? Ou encore brillons-nous là par notre absence ? On ne voit pas à quoi ça sert. Comprenez-moi bien, il ne s'agit pas de nous imposer des fardeaux que nous ne pouvons pas porter. Il s'agit seulement de nous prouver à nous-mêmes d'abord et de prouver aux autres ensuite, éventuellement, que nous sommes bien tous remplis de l'Esprit Saint. Or, comment y parviendrons-nous si nous ne manifestons pas aujourd'hui un véritable appétit pour la prière et la prière communautaire en particulier ? Ou pour dire les choses de manière triviale, si prier avec les autres n'est tout simplement pas notre truc. C'est pas ma tasse de thé. Il nous faut conclure. Nous avons commencé ce matin avec cette question, avons-nous fait l'expérience de la Pentecôte ? En d'autres termes, avons-nous reçu la visite de l'Esprit ? L'Esprit Saint nous habite-t-il réellement ? Pour nous aider à répondre à cette importante question, me semble-t-il, nous avons choisi de nous soumettre ensemble à l'un de ces tests de dépistage de la présence en nous de l'Esprit Saint que nous trouvons dans le Nouveau Testament. Celui très simple, proposé par Luc en Actes 2, 42. Le moment est venu pour nous de trancher. Sommes-nous ou non remplis de l'Esprit de Dieu ? Nous le sommes à coup sûr si l'annonce de la parole, la communion des amis de l'Église, les repas pris ensemble, les prières communautaires figurent parmi nos joies les plus profondes. Il y a la crainte que nous ne le soyons pas vraiment si ces plaisirs nous sont encore totalement étrangers. Ou que nous le soyons quand même, mais résistant à son action avec une telle vigueur qu'il serait légitime de nous demander si nous aimons vraiment celui qui nous l'a donné, cet esprit. Mes amis, démontrons. Démontrons que nous sommes bien, nous, des filles et des fils de la première Pentecôte. Je veux dire par là des femmes et des hommes qui se distinguent des autres par leur appétit immodéré, certains diront peut-être, excessif, insatiable de la parole, de la communion, des agapes et des prières. Amen.